Alors, à l'attaque.
On peut sûrement être d'accord avec cette formule. Pas de presse libre et indépendante, pas de démocratie véritable. Mais une fois dit cela, les problèmes demeurent et plusieurs points peuvent être abordés quand on observe l'état de la presse aujourd'hui. Premier point classique. Elle peut être indispensable et redoutable à la fois. Indispensable car, dans des sociétés de grande taille, elle seule peut assurer la découverte et la circulation des informations, la diffusion et la confrontation des opinions, en un mot, l'institution des conditions du débat public nécessaire à la formation des volontés individuelles des citoyens. Mais elle peut devenir redoutable, car elle peut aussi, en déformant, sélectionnant ou escamotant ses informations et opinions, exercer une influence néfaste sur la formation de ses volontés. On voit vers qui et quelle chaîne se tournent nos regards. Deuxième point, existe-t-il encore une place pour la presse face à l'explosion des réseaux sociaux, qui prétendent assurer la circulation des informations? Si l'on pense que oui, quelle est cette nouvelle place? Doit-elle se contenter d'établir un fast-checking? Doit-elle se transformer et entrevoir un nouveau type de journalisme? Troisième point, on sait que le rapport des Français à la presse suit plus ou moins le rapport des Français aux institutions. Un accroissement de la défiance. Comment l'expliquer? Peut-on y remédier? Et comment? C'est à l'ensemble de ces questions que nous tenterons de répondre grâce à M. Alexis Lévrier, à qui on donne la parole aujourd'hui dans la tactique, pour qu'il puisse se présenter et que l'on remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Alexis, bonjour.
Bonjour. Alors, je me présente, c'est ça? Je m'appelle Alexis Lévrier, je suis maître de conférence à l'Université de Reims et spécialiste de l'histoire de la presse et des médias. J'ai d'abord travaillé sur la presse d'Ancien Régime, c'était mon sujet de départ. Ça reste d'ailleurs une grosse partie de mon travail de recherche, mais depuis à peu près une décennie, j'ai élargi le champ de mes recherches en travaillant aussi sur la presse contemporaine et en travaillant sur des thématiques comme le rapport entre journalisme et pouvoir, auquel j'ai consacré deux ouvrages, Le Contact et la Distance et Jupiter et Mercure. Donc c'est devenu une partie importante de mon travail que de questionner l'actualité des médias à la lumière de son histoire, me servir de l'histoire des médias pour comprendre des problématiques contemporaines qui touchent au journalisme et à l'information. Voilà pour cette présentation.
Ok. Donc pour commencer, peut-on rappeler brièvement, si on peut, l'origine de la presse, si on peut la définir, et peut-être même aborder l'origine de la liberté de la presse?
Alors la presse, elle existe, c'est compliqué de dater son apparition, parce qu'on n'a pas décidé tout d'un coup de dire, voilà, on va créer un journal. Ce sont les historiens de la presse qui essayent de distinguer le moment où on peut parler d'une périodicité stable et d'ouvrages qui se mettent à parler de manière spécifique de l'actualité. Alors, beaucoup considèrent que c'est dans la dernière décennie du XVIe siècle, en Allemagne, au moment de grandes foires qui se tiennent d'ailleurs toujours là-bas. Alors on a commencé à vendre des chronologies qui se sont ressemblées d'une foire à l'autre, avec une présentation toujours à peu près analogue. Et donc ces chronologies, pour lesquelles il y avait évidemment une périodicité liée à ces foires, peuvent être considérées comme les premiers journaux. Donc ça, c'est une possibilité. Ce qui est certain, c'est que dès le début du XVIIe siècle, on va voir apparaître des journaux. Alors, le terme journal, il va apparaître plus tardivement, mais on parle de relations au début, puis très vite de gazette, qui est un terme qui vient du vénitien, la gazzetta, qui est une pièce de monnaie vénitienne et qui est très vite a servi à désigner ce que cette pièce de monnaie permettait d'acheter, autrement dit, des journaux. Et donc la gazette, on voit que c'est d'emblée un phénomène européen, puisque vous allez en avoir donc en Italie, mais aussi en France, avec le même mot, hein, ou des variantes orthographiques légères, dans les territoires germanophones, en Angleterre au sens large, en Espagne. Donc le même mot va être pris à peu près partout. Et on peut considérer que la presse naît donc dans les premières décennies du XVIIe siècle, s'étend à l'ensemble de l'Europe, et avec un phénomène très massif. Pour répondre à la deuxième question sur la liberté de la presse, la liberté de la presse, elle naît tout de suite. La presse naît de cet appétit d'une information plus immédiate, plus rapide et affranchie du pouvoir. Son succès vient de là. Le problème, c'est que partout, le pouvoir politique, très rapidement, a voulu se mêler du fonctionnement des journaux. Alors, en France, c'est un exemple assez typique, puisqu'en 1631, Théophras Renaudot lance la Gazette. Et au départ, ce journal est libre. Il n'est pas contrôlé et il a même un concurrent qui s'appelle Les Nouvelles Ordinaires de divers endroits, qui paraît au même moment, qui se présente de la même manière. C'est une suite de nouvelles qui commence par la mention du lieu, de la date, et puis un « on », qui impersonnel, qui annonce la nouvelle. Et ça, ce sont donc deux gazettes concurrentes, pluralistes, par conséquent, et libres, sauf que très vite, le pouvoir français, en l'occurrence Louis XIII et surtout Richelieu, vont se mêler de ces premiers journaux et chercher à transformer ces périodiques assez libres en instruments de communication susceptibles de relayer des informations uniquement contrôlées par le pouvoir. Et c'est comme ça que Renaudot va donner sans doute plus de gages de soumission que les auteurs des Nouvelles Ordinaires. Et les Nouvelles Ordinaires vont disparaître, vont être absorbées en fait par la Gazette avant de disparaître corps et bien. Et donc on passe en quelques mois d'un régime qui était celui de la liberté et du pluralisme à celui du monopole et de l'absence totale de concurrence. Et cette situation officiellement durera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les auteurs de la Gazette jouiront d'un monopole de principe sur toute l'actualité politique jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Donc c'est, vous avez des choses assez analogues. Le premier pays qui va s'affranchir vraiment de ce système-là, c'est l'Angleterre, après la Révolution glorieuse. Jusque-là, il y avait un système assez proche de journalisme officiel. Et puis, avec la fin la naissance d'une monarchie parlementaire, toutes ces protections, toutes ces limites tombent. Et dès la fin du XVIIe siècle, par conséquent, la dernière décennie du XVIIe siècle, la presse anglaise est totalement libre. Après, il y aura des instruments indirects qu'on retrouve tout au long de notre histoire pour essayer de contrôler les journaux lorsqu'on ne peut plus le faire directement. Ces instruments, ce sont les taxes. Et en Angleterre, on va utiliser une taxe qui s'appelle le Stamp Act à partir de 1712, et puis elle va être durcie à plusieurs reprises pour s'en prendre aux journaux autrement que directement, mais en leur imposant des limites financières. Et cette arme de la fiscalité punitive ou incitative, elle continue à être utilisée aujourd'hui dans les démocraties pour choisir des journaux, pour avantager certains et désavantager d'autres, et parfois pour s'en prendre à l'ensemble de la presse.
Donc, c'est ce qui conditionne les aides publiques à la presse, un peu
oui,
ça.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en France, on a un système qui est... alors, c'est vraiment notre problème en France. La plus ancienne... aide à la presse et l'aide postale qui apparaît à toute fin du XVIIIe siècle. Et en fait, aujourd'hui, les journaux sont dopés aux aides publiques. On est un pays où la presse... Alors, il y a eu des moments où elle était très forte, par exemple à la Belle Époque. Même dans l'entre-deux-guerres, on a encore des tirages très importants. Mais autrement, elle est structurellement plus faible qu'ailleurs parce qu'elle n'a pas la même tradition de liberté, justement, que les pays anglo-saxons. Et parce qu'elle est plus faible, elle est plus dépendante des aides publiques. Et ces aides publiques contribuent à la faiblesse de la presse, paradoxalement, puisqu'il conforte une partie du public dans l'idée que la presse est aux ordres du pouvoir, qu'elle est contrôlée, qu'elle est aidée, donc qu'elle relaie le discours que l'on attend d'elle. Et ça, c'est très dommageable pour les journaux, mais parfois, c'est vrai, hein, c'est-à-dire que les aides publiques sont en France un moyen de choisir les bons et les mauvais journaux. Pour donner un exemple, pourtant c'est un président qui a été plutôt favorable à la liberté de la presse, c'est François Hollande. Tous les présidents de la Ve République ont attaqué la presse, tous. Dès qu'il y a un pouvoir vertical, centralisé, ça se passe très mal pour les journaux et pour les journalistes. Mais François Hollande était plutôt, lui, ça faisait partie de sa normalité, comme il disait, favorable à une absence de contrôle. Sauf que après Closer, vous savez, la une de 2014 sur le scooter. Alors, Laurence Pio, qui dirige le journal... raconte qu'on a quand même informé l'Élysée la veille de l'apparition du journal de l'existence de ces photos et de la une du lendemain. Et le président aurait pu empêcher l'apparition, il ne l'a pas fait, donc c'est à mettre à son crédit. Mais quelques mois plus tard, on a commencé à voir arriver l'idée que les journaux People touchaient trop de dettes publiques. Et donc, on a supprimé l'aide postale, la plus ancienne aide dont je vous parlais tout à l'heure, pour les journaux People, celle qu'on appelle la presse de divertissement, Du jour au lendemain, des journaux comme Closer n'ont plus touché cette aide-là, ce qui est une somme considérable. Et dans le même temps, et c'est ça qui est très consternant, on a considéré qu'un journal comme Paris Match, qui fait de la presse people, tout le monde le sait, mais au service du pouvoir, dans une logique de célébration du pouvoir, bien Paris Match était un journal d'information politique et générale, et donc Paris Match a continué à toucher l'aide postale. Voilà comment le pouvoir choisit les bons et les mauvais journaux.
Et que penser du coup, par exemple, du Monde qui est subventionné par la fondation Bill et Melinda Gates?
Ah, ben c'est toujours... Alors moi, je pense que le modèle du Monde est un modèle vertueux quand même, hein, parce que alors c'est le moins vicieux, si vous voulez. Évidemment, on préférerait tous que le Monde soit encore un journal totalement indépendant, comme il l'était jusqu'en 2010. On a vu des vautours passer autour du Monde à partir de ce moment-là. Moi, je raconte dans un livre, on a Emmanuel Macron qui va justement être au service à l'époque du groupe d'Alain Minc pour essayer de racheter le Monde. Il joue un rôle d'entremetteur que la rédaction du Monde va finir par comprendre, alors qu'il se présentait comme... Il disait qu'il était comme banquier d'affaires à l'époque et qu'il voulait quelque chose qui ait du sens. Et de manière totalement bénévole, il allait aider le Monde à trouver... le meilleur acheteur sans que ça affecte l'indépendance éditoriale. Et en réalité, il travaillait pour le groupe Prisa, donc un groupe espagnol qui avait des liens avec Alain Minc. Et comme le Monde se méfiait d'Alain Minc, on ne pouvait pas le dire officiellement. Donc on a utilisé l'entre-gens d'Emmanuel Macron. C'est consternant. Ça montre bien à quel point la presse est un enjeu. Mais finalement, ceux qui ont racheté ce journal, Pigasse, Berger, Niel, dans un premier temps, ont été dans l'ensemble assez respectueux de l'indépendance de ce journal. Et désormais, il y a un fonds de dotation qui garantit a priori que cette indépendance sera respectée. Ce n'est pas un modèle idéal. Le modèle idéal, enfin, et encore, il n'y a jamais de modèle idéal. Et le meilleur modèle, c'est évidemment un journal comme Mediapart qui est totalement indépendant.
Et le Monde diplomatique?
Alors, le Monde diplomatique dépend du groupe Le Monde, quand même. Hein,
mais pour la publication.
Oui.
Mais pas pour la rédaction.
Ah non, bien sûr. D'ailleurs, la ligne est très, très, très hostile au Monde classique.
Oui.
En fait, si vous voulez, l'indépendance totale des médias, moi j'ai beaucoup travaillé, je vous disais, sur la presse d'Ancien Régime, et dans les critiques qui naissent dès l'Ancien Régime, il y a l'idée que les journalistes ne sont pas indépendants. Alors on ne dit jamais qu'on déteste la presse, on dit qu'on voudrait un journaliste fidèle à ses valeurs, donc qu'il soit totalement impartial et totalement indépendant, qui ne dépend ni du pouvoir politique ni des puissances d'argent. Cette critique, elle apparaît très tôt, au nom d'une vision idéalisée de la presse, mais qui en fait ne correspond à aucune réalité. La presse, c'est une somme de contraintes. Ce qui la caractérise comme média, c'est l'existence de contraintes techniques, matérielles, économiques, qui font que ça ne pourra jamais être un média totalement indépendant. Parce que même les médias type Mediapart, qui est une exceptionnelle réussite, ils sont toujours dépendants de leur lecteur. Le lecteur, si c'est lui qui paye, c'est lui qui fait pression. Alors la garantie le nombre d'abonnés de Mediapart les préviennent de ça, mais tous les autres médias en ligne qui ont essayé d'imiter ce modèle, et certains plus tôt d'ailleurs, arrivent sur l'image version web, est apparu un peu avant Mediapart, mais l'équilibre de ce média est très fragile. C'est le modèle le plus vertueux, mais il est très fragile et très dépendant des lecteurs. Et Daniel Schneiderman racontait qu'au début de Reste sur image, les lecteurs cherchaient à faire pression sur le contenu éditorial. Je paye, donc je fais pression. L'indépendance absolue des journalistes n'existe jamais. Il faut juste arriver à un modèle qui soit le plus acceptable possible et qui leur permette de travailler dans de bonnes conditions. Mais l'indépendance absolue, c'est toujours un mythe.
Mais en ce moment, on a vraiment l'impression que les médias ne font que diffuser la pensée unique, quoi. C'est comme si on n'avait plus le droit de penser de côté, quoi, par rapport à ce qui nous est dit.
Oui, alors je ne serais pas aussi... peut-être parce que j'aime tellement la presse que j'ai une vision plus...
Oui, je suis peut-être
plus optimiste. Mais c'est une stratégie de survie. C'est que, comme je travaille sur ce sujet, moi j'ai envie de croire en l'avenir des médias. Mais je comprends tout à fait votre pessimisme. Hein. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter. D'abord, le service public qui a une tradition quand même de pression du pouvoir politique, bien sûr. C'était ce que disait De Gaulle. Hein. La presse est contre moi, la télévision est à moi. L'ORTF a été créé pour ça. Bon, après, le pouvoir médiatique public s'est affranchi du pouvoir politique en partie. Mais cette indépendance est menacée aujourd'hui par la fin de la redevance, par des possibilités de coupes budgétaires. Donc l'audiovisuel public est fragilisé et il est attaqué de toutes parts. Et par ailleurs, les journaux vraiment indépendants, je vous le disais, sont devenus très peu nombreux. L'existence de 8 à 9 oligarques, alors ça se renouvelle, hein, puisqu'en ce moment, Drahi est en train de disparaître en tant qu'actionnaire. Le Gardère n'existe quasiment plus. Il est devenu le chargé de communication de Vincent Bolloré, comme on l'a vu hier soir en complément d'enquête. Bon, tout cela montre bien que ça bouge, mais vous avez de nouveaux acteurs comme Rodolphe Saadé, comme Daniel Kretinsky, qui perpétuent cette tradition d'oligarques qui se servent des médias comme outil d'influence. Clairement, il faut le dire, c'est pas un modèle vertueux, c'est simplement le moins pire des modèles dans les conditions actuelles, c'est-à-dire ce sont des actionnaires qui, dans le meilleur des cas, n'interviennent pas directement. Je disais que Xavier Niel n'intervient pas dans le contenu rédactionnel du Monde. Daniel Kretinsky, il est intervenu pour Marianne dans l'entre-deux tours, parce qu'il voulait une plus favorable à Macron, mais dans l'ensemble, il intervient assez peu. Bernard Arnault, par contre, en ce moment, qui était plus en retrait dans ses interventions, les dissimulait, il l'assume de plus en plus, et c'est très inquiétant. Donc non seulement on a un nombre limité d'oligarques, mais en plus, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont de plus en plus tendance, pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux, à intervenir dans la nomination des rédacteurs en chef, des directeurs de la publication et dans le contenu éditorial. Et ça, c'est particulièrement inquiétant, évidemment. Mais moi, je mets pas sur le même plan, même Bernard Arnault, qui est dangereux aussi, hein, bien sûr, mais et tous ces oligarques et ce qui se passe avec l'Empire Bolloré. Il faut pas... C'est ce que je reproche au discours des Insoumis, par exemple, et de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a rien dit pour le JDD cet été. Je pense qu'il passe à côté de ce qui fait la singularité. À force de dire que les journalistes sont tous des marionnettes au service du pouvoir, on ne se rend pas compte quand ils le deviennent vraiment. Or, c'est ce qui se passe au sein de l'Empire Bolloré, par petites touches, et maintenant de manière assumée. Et on a en plus, non seulement la fin de la liberté de travail des journalistes, mais des médias qui sont mis de manière ostensible, et comme on ne l'a jamais vu en France depuis les années 20-30, des médias qui sont mis au service d'une croisade réactionnaire qui vise à saper tous les fondements de la démocratie. Il faut bien comprendre la singularité de la période que nous vivons, et cette singularité, c'est l'Empire Bolloré. Il n'a rien à voir avec tous les autres actionnaires dont je parlais, qui ont tous les défauts du monde, mais qui n'avaient pas ce projet réactionnaire, et qui respectaient quand même un peu davantage la liberté de travail des journalistes. Nous vivons une période très singulière en raison de l'existence de cet empire Bolloré qui n'a qu'un équivalent, c'est l'empire Murdoch à l'échelle mondiale. Nous avons désormais un Murdoch français, et quand on sait à quel point Murdoch a influencé le Brexit, la guerre en Irak, évidemment l'élection de Trump, bon, c'est très inquiétant pour l'avenir, pas simplement de la presse, mais de la démocratie française.
Oui, c'est pourquoi dans les états généraux de la presse, une des propositions qui a été faite, c'est d'interdire à tout groupe industriel de détenir un organe de presse, tout groupe qui n'aurait pas, dont l'activité principale n'est pas l'information.
Oui, mais alors, faut bien voir la limite de ça, parce que Bolloré, ce qui est très singulier, une autre des singularités de l'Empire Bolloré, c'est qu'il s'est désengagé progressivement. C'est un empire au départ qui n'a rien à voir avec les médias. C'est un autre papier, c'est l'OCB, c'est les papiers à cigarettes au départ. Oui. Et de ce papier à cigarettes, il est passé au papier journal. Et son empire s'est resserré sur les médias, d'abord les médias audiovisuels, désormais la presse écrite. Il a vendu ses activités africaines, donc c'est désormais de plus en plus un empire médiatique. C'est plus simplement un industriel qui achète quelques médias comme outil d'influence, c'est quelqu'un qui a choisi de faire les médias le cœur de son activité. C'est aussi une des singularités aujourd'hui. Donc dans les états généraux de l'information, moi j'avoue que je suis de plus en plus dubitatif, malheureusement, alors que j'avais de l'espoir, parce que je crois que Christophe Deloire, qui est quelqu'un d'attacher la liberté de l'information, qui serait ambitieux. Il est entouré de gens qui le sont beaucoup moins, qui ont été placés là par le pouvoir. Et je ne sais pas de quelle liberté il disposera. La ministre, qui était quelqu'un de bien, Rina Abdul-Malak, a osé s'attaquer à Bolloré. On ne l'entend plus du tout. Elle a dit récemment qu'il ne fallait pas rêver d'un grand soir législatif. Alors il semble que son intervention était à média en scène et était plus nuancée que ça. Alors, il y a quand même cette phrase. Donc on ne sait pas quelles seront les ambitions de ces états généraux. Et j'ai peur que, comme souvent avec Emmanuel Macron, tous ces travaux collectifs qui durent des mois et des mois, on l'a vu pour le climat,
finalement,
une synthèse, un grand discours, il est très fort pour ça, qui n'est suivi de rien du tout. C'est ce qu'on peut craindre pour les médias. Il y a déjà une expérience d'états généraux, c'était sous Sarkozy, et ça avait donné lieu, comme toujours, à des aides publiques. On arrose la presse d'argent à défaut de réfléchir à son évolution réelle. Donc j'ai peur qu'on ait la même chose, parce que il y a par contre des propositions intéressantes, par exemple de Sophie Taillé-Polian, qui est une députée Génération, je crois, mais c'est une proposition de loi transpartisane. Il y avait des gens de la majorité pour, et ça c'est très simple à mettre en place, un droit de veto ou un droit d'agrément qui permettrait à une rédaction d'empêcher la nomination d'un rédacteur en chef ou d'un directeur de publication qui déplairait à la rédaction. Et on sait à quel point ce type de mesure aurait pu sauver le JDD, qui est devenu en quelques semaines, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu non plus il y a quelques exemples, on ne l'a pas vu depuis très longtemps, un outil xénophobe, réactionnaire, mis au service des fake news, qui sur la question internationale ne traite que de l'actualité à travers les intérêts de Vladimir Poutine, parce qu'il y a ça aussi dans les médias de Bolloré. Donc tout ça s'est fait en quelques semaines contre l'avis de 97 à 98% de la rédaction, et toute la rédaction a dû partir. Donc une proposition comme celle-là, qui est née dans cet été, hein, au moment où la rédaction du JDD se battait pour son avenir, ça pourrait donner lieu à une loi. Il faut bien comprendre que les lois peuvent être protectrices de la presse lorsque elles sont là pour aider les journaux à défendre leur indépendance, pas lorsque le pouvoir se mêle du fonctionnement lui-même des médias et décide des nominations. Il faut donner aux journaux les moyens de leur indépendance. C'est pas pour rien que toutes les lois protectrices de la presse, à commencer par la loi de 1881, sont nées en régime parlementaire, sous la Troisième République. C'est vraiment la Troisième République, jusqu'à la carte de presse en 1935, qui a donné à la presse les outils de sa liberté. Mais c'est un travail inachevé. La preuve, on ne protège pas assez les rédactions d'une manière collective. Voilà, il y a un statut individuel pour les journalistes qui leur a permis de partir dans de bonnes conditions avec des clauses de conscience ou des clauses de cession, mais il n'y a pas de protection suffisante pour les rédactions. Et là, on essaye de l'envisager, et les états généraux vont être un lieu, évidemment, où on va poser cette question, sauf que il y a très peu de chances que cette loi voie le jour, parce qu'elle n'a pas... visiblement, le gouvernement n'y est pas favorable, Emmanuel Macron ne souhaite pas légiférer sur ces questions. Bon, c'est ce que l'on sait en l'état du débat. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais pour l'instant, il semble qu'il y a très peu de chances qu'une telle loi puisse voir le jour, et donc je n'attends pas grand-chose pour ma part de cet état général de l'information.
Prison en prison, de cellule en cellule, pour avoir informé preuve à l'appui. Pourtant, je ne suis plus un nom, pas même un matricule, abandonné de tous. Je suis un mort vivant. On m'a pissé dessus, craché à la figure, sur mes parties intimes, on a mis le courant. Avec les rats crevés, je dors dans la raclure, malade et décharné. Je suis un mort vivant. Parce que j'accusais et qu'au sang de ma plume, la liberté coulait, défendait des droits. Pour m'empêcher d'écrire, on a dû sur l'enclume et me briser le corps et me broyer les doigts. Dès lors que vérité n'avait pas bonne face, dès lors que mes refus à rentrer dans le rang n'était pas dans le goût de ces messieurs en place, au fond de ce tombeau, je suis un mort vivant. Parce que je touchais le poing ou le bas blesse, que de langue et de plume j'étais virulent, des hommes de pouvoir et de fausses promesses m'ont jeté dans l'oubli, je suis un mort-vivant. Parce que mon esprit n'a jamais su se mettre au rang des compromis lèches cul militants. On m'a mis dans ce trou afin de me soumettre par la soif et la faim. Je suis un mort-vivant. Mon Dieu, si tu existes, écoute ma prière. Donne-moi le courage, la force et la foi de ne jamais faiblir face à mes tortionnaires. Je t'en prie au moins toi. Ne m'abandonne pas. Moi, le pisse-papier à longueur de colonne que l'on veut museler en lui rognant les dents. Humble, je viens à toi, moi qui ne suis personne. J'ai ta regard sur moi, je suis un mort vivant. Voix de disparus, moi je peux les entendre, bien que gorge tranchée, bien que hors du temps, sortant des murs griffés et de dessous les cendres, qui hurlent avec moi, je suis un mort vivant. Je rampe dans mon trou comme un rat sous la terre, dans la crasse, l'oubli, dans la merde et le sang, dans ce lieu où jamais un rayon de lumière ne caresse ma peau. Je suis un mort vivant. Je bois des eaux usées, Dieu sait ce que je mange. Revêtu de haillons, j'ai l'air d'un revenant. Je subis les sévices et je vis dans la fange. Mais je sais qui je suis et ce que je défends. De prison en prison, de cellule en cellule, pour avoir informé, preuve à l'appui pourtant, je ne suis plus un nom. Pas même un matricule pour délit d'opinion, pour délit d'opinion, pour délit d'opinion, je suis un mort-vivant.
Ils ont donné quand même une idée générale de l'état de la presse actuellement et ça donnait quand même des pistes.
Bien sûr, et il y a dans les commissions, notamment il y en a une qui va travailler sur la concentration dans les médias. La loi française sur la concentration dans les médias date de 1986. Elle est donc totalement obsolète. L'univers médiatique des années 80 n'a rien à voir avec celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il n'y avait pas de chaîne d'information, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y a une loi qui est une règle, pardon, dans cette loi de 86, qui est la règle des 2/3. Un patron de presse ne peut pas posséder à la fois une radio, une télé et un quotidien. Bon, on pourrait se dire, ça c'est une bonne limitation. Mais si on regarde Vincent Bolloré aujourd'hui, il a plusieurs chaînes télé, il y a plusieurs radios, il a de nombreux magazines, mais il n'a pas de quotidien. Même si on considère souvent que le JDD est un quotidien du 7e jour, c'est pas considéré comme un quotidien véritable, pareil que le dimanche. Donc, il ne tombe pas sous le coup de cette règle, et il a construit un empire sans équivalent dans l'histoire récente, d'une diversité, d'une efficacité, d'une puissance qu'on a rarement vu dans l'histoire française, mais ils ne tombent pas sous les coups des règles de 1986. Donc il faut les revoir. Et il y a des gens dans ces commissions, au sein des États généraux, dont on sait qu'ils proposent des choses depuis longtemps, qui vont dans le bon sens, pour limiter cette concentration dans les médias. Mais est-ce qu'ils seront entendus? J'espère qu'ils le seront. Il ne faut pas être trop pessimiste quand même, mais... Bon, les premiers signaux, l'attitude de la ministre, le silence du gouvernement d'une manière générale, le silence d'Emmanuel Macron, le fait que dans le JDD, vous avez un défilé de ministres. Dans chaque semaine, il y a une interview d'un ministre qui défile aussi sur CNews. Bon, tout cela semble montrer qu'on a plus ou moins renoncé à lutter contre cette expansion continue de l'Empire Bolloré et plus généralement contre cette extrême concentration des médias que l'on vit en ce moment. Voilà, donc ça va être, vous avez raison, un outil de réflexion, mais ce que disent les rédactions, c'est qu'elles sont très peu représentées, les écoles de journalistes sont très peu représentées, il n'y en a que deux, il y a 14 écoles reconnues, il n'y en a que deux, l'ISBA et Sciences Po, qui sont représentées dans ces états généraux. Donc pour l'instant, je sens une grande frustration chez les journalistes, chez les étudiants, chez les écoles, à l'égard de ce que proposent ces états généraux. Mais bon, Christophe Deloire, qui est quelqu'un vraiment d'attaché à la liberté de la presse, veut se battre, il va travailler, je crois qu'il est convaincu que ces états généraux peuvent être utiles. J'espère qu'il obtiendra gain de cause.
Mais du coup, est-ce que les citoyens se désintéressent un peu de l'actualité, mais est-ce que ça ne va pas les inciter à s'en désintéresser de plus en plus ?
C'est le risque, effectivement, et c'est surtout le risque qu'ils aillent vers des médias sans journalistes. C'est une grande tentation en ce moment qu'on voit partout et qui a été alimentée par le président Macron lui-même, qui avait défini, avant même de conquérir le pouvoir, il avait défini son rapport aux médias en disant qu'il fallait rêver d'une démédiatisation du rapport avec d'une désintermédiation, pardon, c'est le terme qu'il employait, du rapport avec le peuple, c'est-à-dire ne plus avoir de journalistes dans l'accès et donc maîtriser soi-même son contact avec le public, le faire de manière directe. Et ça explique pourquoi il a tant misé sur les réseaux sociaux, même une fois devenu président, ou alors sur des interventions à 20h sans journalistes. Donc les journalistes sont de plus en plus contournés par le pouvoir politique lui-même. Il n'y a pas que Emmanuel Macron. Et dans le même temps, cette tentation de se passer des journalistes dans l'accès à l'information, c'est aussi une tentation du public. Le public, via les réseaux sociaux notamment, on l'avait vu au moment des Gilets jaunes, a tendance à créer ses propres médias ou à se fier à des médias horizontaux, créés par la base, par un peuple qui estime que finalement les journalistes ne sont pas fiables et que donc il faut les contourner. Alors, cette tentation existait sous l'Ancien Régime. Il y avait ce qu'on appelait les nouvellistes de bouche, qui étaient des lecteurs passionnés de l'actualité, qui se réunissaient dans les cafés et surtout dans les rues et surtout dans les jardins publics, au Palais Royal, aux Tuileries, au Luxembourg, et qui discutaient de l'actualité, qui trouvaient un peu les médias de l'époque, les médias alternatifs, disons, de l'époque, donc avec des réunions fréquentes, souvent des périodiques manuscrits qui étaient écrits à partir de cela, et avec l'idée que les médias officiels ne sont pas fiables, ils sont contrôlés par le pouvoir, donc il faut répondre à cela par une autre parole, un autre discours qui, lui, sera indépendant du pouvoir. Donc ces nouvellistes de bouche, c'est les ancêtres des Gilets jaunes, c'est les ancêtres de ce que nous sommes tous aussi de plus en plus dans notre rapport à l'information. On peut tous désormais devenir producteurs d'informations. C'est une tendance qui est très forte, c'est-à-dire que l'équipement des journalistes se restreint. Quand une équipe de journalistes va sur le terrain, il y a encore quelques années, il fallait être trois, il fallait un preneur de son, il fallait un caméraman, il fallait un journaliste voix. Aujourd'hui, un journaliste part tout seul avec son smartphone. Et or, nous tous, dans une manifestation, lors de n'importe quel événement, nous pouvons nous improviser journalistes parce que nous avons aussi des smartphones et la possibilité après de mettre en ligne les images ou les discours que nous aurons filmés. Et donc, la différence technique entre le travail journalistique et le travail d'un simple lecteur, téléspectateur, internaute, est de plus en plus ténu. Et je pense, pour ma part, mais c'est parce que je défends la presse, qu'on n'a jamais eu autant besoin de journalistes formés, compétents, ayant l'expertise de ce qu'est l'image, de ce qu'est la production d'information, de ce qu'est aussi la place des fake news de plus en plus grandissante dans l'espace public et médiatique. On n'a jamais autant besoin de journalistes, mais ce que l'on voit, c'est une tentation qui apparaît partout et qui existe au sommet de l'État lui-même, de contourner les journalistes. Moi, cette tentation me paraît extrêmement inquiétante.
Mais on pourrait penser qu'il existerait les deux systèmes, c'est-à-dire du journalisme de l'immédiateté. C'est ce que je pense de prendre des informations directement sur le terrain avec un smartphone. Et les journalistes pourraient, eux, se dédier à l'analyse de ces actualités. Et aussi, une chose très très importante, décrypter tout ce qui est fake news ou publication mensongère. Et ça devrait faire pas. Là, les journalistes devraient être vraiment très 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 bien formés, quoi.
Effectivement, je pense que les missions qui s'imposent aux journalistes n'ont jamais été aussi nombreuses, et notamment avec la naissance des IA et d'images fausses, et puis des influences étrangères, comme on l'a beaucoup vu avec Poutine ces dernières années. Ça oblige les journalistes à faire tout un travail qui a toujours été le leur. On a le travail de vérification de l'info, il est propre aux journalistes, mais il s'impose à eux désormais de manière beaucoup plus systématique. Ils vont devoir être formés pour cela. Donc effectivement, ça c'est une des, des missions. Après, ce que vous dites sur l'analyse, le décryptage, effectivement, il y a un travail journalistique, mais je crois aussi que l'une des singularités, vous dites que l'immédiateté pourrait revenir à tout le monde. Je ne crois pas que ce soit complètement vrai, parce que dans l'immédiateté, on peut commettre beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, les journalistes aussi en commettent beaucoup. Hein. Mais par exemple, on voit bien aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine ou entre le Hamas et Israël, que le journalisme de guerre n'a jamais été aussi important. Et qu'il est, c'est toujours le journaliste le plus menacé, parce que là, évidemment, on veut s'en prendre à lui, d'ailleurs on peut s'en prendre à lui physiquement, et puis on peut l'utiliser, comme on le voit dans toutes les guerres. Nous, la presse française n'a jamais été aussi forte que sous la Belle Époque, et elle cesse de l'être, en tout cas sa crise commence, avec le rôle de propagande qu'elle a joué lors de la Première Guerre mondiale. Les périodes de guerre sont toujours des périodes terribles pour la liberté de la presse, mais c'est aussi des périodes où peut naître un journalisme de qualité, qui n'a pas d'équivalent. Et dans la guerre d'images que se livrent aujourd'hui les belligérants, le journalisme a un rôle à jouer qui est un rôle essentiel, un rôle très difficile. Mais je pense que la presse a cette fonction-là. Une des choses rassurantes récemment pour l'Ukraine, c'est que LCI a fait de très bonnes audiences en s'émancipant de ce que deviennent de plus en plus les chaînes d'infos qui, sous l'influence de CNews, ont tendance à devenir des chaînes d'opinion avec des débats radicalisés. Quelque chose qui n'a plus grand chose à voir avec le journalisme. Et LCI a fait l'inverse. Ils ont fait du reportage de guerre, massivement, et plutôt de qualité, et ils ont obtenu d'excellentes audiences avec ce journalisme-là. Ça veut dire que la presse est encore capable d'aller un peu à contre-courant et de pratiquer ce journalisme exigeant, hein, parce qu'il faut des moyens. C'est un journaliste qui présente des risques. Mais en tout cas, LCI a été récompensé sur la durée, son image s'est nettement améliorée et ses audiences aussi se sont nettement améliorées. Donc c'est la preuve que c'est possible.
Et pourtant, prendre par exemple, au moment des manifestations, un policier en train de mettre à terre, je pense à ce qui s'est passé avec une femme d'attaque, je crois que c'était à Marseille.
Geneviève
Legay, et heureusement que quelqu'un a pris la scène avec le smartphone, parce que ça permet quand même devant la justice de se défendre.
Bien
sûr,
ça,
le journaliste, il peut pas être partout dans ces cas-là.
Évidemment, mais je trouve que ces images filmées par des internautes montrent bien ce qui singularise les images utiles, hein, qui sont des sources en fait pour les journalistes,
oui,
du travail journalistique. Il y a un bon exemple pour ça, c'est l'affaire Benalla. Il s'agit d'images filmées le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe, par Taha Bouaf. Qui à l'époque n'est pas journaliste. Il est devenu après, mais à l'époque, il est militant insoumis, et il filme des images qu'il ne comprend pas lui-même. C'est-à-dire qu'il les met en ligne, il a fait un travail très utile, hein, mais qu'il n'a pas su contextualiser, situer. Il croit filmer un policier. Et les images, alors on peut les vérifier, hein, sont toujours en ligne sur YouTube. Il les poste au nom de la dénonciation des violences policières. Et il y a d'ailleurs des gens qui disent « mais c'est bizarre, il ne semble pas un policier ». Et lui, sa réponse, c'est de dire, mais si, il venait des troupes policières, cherche pas, t'es bien ça, t'es encore les flics, etc. Donc c'est au nom d'un discours anti-flic, dénonciation légitime des violences policières, qu'il produit ces images, qu'il les met en ligne. Et c'est quelques mois plus tard, hein, c'est en courant du mois de juillet, que Le Monde sort l'article qui révèle que ça n'est pas un policier, mais quelqu'un qui a un rôle très flou au sein de l'Élysée et très important, qui s'appelle donc Alexandre Benalla, qui est devenu un conseiller, ou en tout cas quelqu'un qui verrouille l'accès à l'Élysée, à Brigitte Emmanuel Macron, qui s'en prend à des journalistes. Et là, la presse va tirer le fil, découvrir qu'il a des liens avec des oligarques russes, qu'il a commencé des affaires en Afrique. D'ailleurs, je pense que la presse a rendu service paradoxalement à Emmanuel Macron, parce que Benalla était en train de prendre une place à l'Élysée qui pouvait, à terme, faire beaucoup de mal à Emmanuel Macron lui-même. Mais d'ailleurs, le président était dans le déni complet. Hein. Pendant 6 jours, il refuse de s'exprimer. Après, il s'en prend à la presse. Hein. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, un tribunal, un pouvoir médiatique qui se prend pour un pouvoir judiciaire. Des mots très, très durs, des mots d'ailleurs très graves de la part d'un président en exercice. Mais qui montre bien à quel point la presse avait joué son rôle. Mais c'était en interprétant des images qui avaient été mises en ligne par Taha Bouaf, qui n'avait pas su les comprendre ni les contextualiser. Un travail journalistique, ça veut dire ou quand, qui, dans quelles conditions, pourquoi. Et ça, ce travail-là, Tabouaf ne l'avait pas fait, mais ce n'était pas son rôle, il était militant
bien
politique.
Sûr, oui, et là, on a bien les deux aspects.
Exactement. Et ils sont tous les deux nécessaires, parce que vous avez raison, les journalistes ne peuvent pas être partout. Donc, ces sources venues de gens sur le terrain peuvent être extrêmement utiles pour eux, et c'est à charge pour eux ensuite d'être capables de décrypter ces images.
Mais dans ce cas-là, là, les sources, c'était facile à trouver, puisqu'elles étaient devenues publiques. Mais là aussi, où il y a plus de danger pour les journalistes, c'est le secret des sources.
Oui, et alors là, c'est encore...
Qui est attaqué.
Exactement. Ce qui s'est passé pour Ariane Lavrieux, mais, voilà, j'en avais pas parlé, merci de le mentionner, parce que dans les inquiétudes présentes, il y a ça. C'est-à-dire que la loi de 1881, qui est, on a cette chance-là, et c'est grâce à la Troisième République, il y a un certain nombre de protections, et la loi de 1881, c'est un modèle d'équilibre. Et il y a des choses sur les fausses nouvelles, donc d'ailleurs c'est totalement inutile de faire une loi sur les fake news en 2018, l'article 27 porte sur les fausses nouvelles, il y a des choses contre la diffamation qui ont été améliorées par la suite, mais déjà c'est dans la loi de 1881, et il y a la protection du secret des sources. Et pour améliorer cela, il y a une loi qui a été votée en 2010, sous Sarkozy, qui renforce encore la protection du secret des sources. Le problème c'est qu'il y a aussi le secret défense. Alors la démocratie, c'est toujours un équilibre entre les pouvoirs, entre les intérêts des uns et des autres. Mais en l'occurrence, cet équilibre a totalement été brisé ces derniers temps par la DGSI. Et parfois en lien avec le pouvoir politique, il faut dire des choses. Je parlais de l'affaire Benalla, il y a eu de nombreuses convocations à la DGSI dans le cadre de cette affaire. Mais aussi, c'était également en 2019 pour les ventes d'armes au Yémen. Et donc Ariane Lavrieux, c'est pour l'Égypte, mais c'est également parce que ça touche au secret défense. Mais on ne respecte plus le travail des journalistes. Et quand je vous disais qu'il y a une volonté de plus en plus de contourner les journalistes, c'est aussi de contourner les protections dont ils bénéficient, de les traiter comme des gens comme les autres, qui n'ont pas plus de protection que les autres. Alors même qu'il ne s'agit pas de protéger les journalistes eux-mêmes, mais leur travail d'information au service de l'intérêt public. Donc ce qui s'est passé pour Ariane Lavrieux est particulièrement inquiétant, et on peut se rappeler qu'il y avait des projets aussi venant de Gérald Darmanin, hein, du ministère de l'Intérieur, de limiter les droits des journalistes dans les manifestations. L'article 24 du projet de loi sécurité avait vocation à les empêcher de filmer les forces de l'ordre.
Oui.
C'est quand même, on s'interroge parfois sur ce qui reste de cadre démocratique.
Mais ça, c'était plus à viser des journalistes indépendants, pour le coup, non ?
Oui, mais c'est très
curieux. Ce qu'il y a, c'est que ça rejaillit sur tout le monde.
Ça rejaillit sur tout le monde, mais il y a des journalistes, par exemple, le journaliste qui est le plus ciblé lors des manifestations par les policiers, c'est Rémi Buisine, un journaliste de Brut, qui était très populaire auprès des Gilets jaunes parce qu'il filme sans prendre parti, en tout cas sans prendre parti officiellement, à hauteur d'homme, en interrogeant les gens, sans voix off les trois quarts du temps. Et lui a beaucoup filmé les violences policières. Et donc, on se rend compte qu'il est ciblé de manière presque systématique dans les manifestations. Ce qui est très schizophrène, mais c'est à l'image de la schizophrénie de la Ve République dans le rapport aux médias, c'est que le même Rémi Buisine a accueilli deux fois Emmanuel Macron à Brut, dans les locaux, et le président l'a traité avec tous les égards dus à un grand journaliste, alors même que les policiers le prenaient à partie dans les manifestations. Donc c'est assez surprenant, parce que c'est pas un journaliste totalement indépendant, Rémi Buisine, mais c'est devenu une icône, c'est devenu un symbole, et il a fait un bon travail en filmant les violences policières. C'est ce travail-là auquel on s'en prend en le ciblant dans les manifestations.
Quand mon pote Mickey m'a donné rendez-vous sur Paris, il a oublié de préciser dans une putain de manif. Qu'est-ce que je fous dans une putain de manif? Je suis pas concerné par la société, je suis un putain d'artiste. J'ai rien manifesté depuis le lycée, c'est chez les cours la seule idée qui m'ait fait militer. Et si tu veux la vérité, je trouve les manifs flingués. J'y pense en passant au milieu d'un flash mob d'infirmiers, entouré par des beaufs un peu politisés qui sortent les mégaphones pour crier des banalités. Je me dis que si traîner en bande et chanter suffisait, ça ferait longtemps que j'aurais changé le monde. J'arrive pas à capter Mickey qui m'a mis juste un texto. C'est marqué je suis à République, je suis pas loin du métro. Entre parenthèses, je suis avec France, la sœur à Fredo. Entre parenthèses, dis rien, j'essaye de la pécho. Après une grande partie d'Où est Charlie, je retrouve Mickey dans un costume de Spider-Man Wish. Il a les poches pleines de grandes Henken, m'en propose une, je refuse vu qu'il est 11h à peine. Il me fait un clin d'œil discret, montre un fumigène. Je sens grisé par la manif et l'atmosphère qui règne. Les CRS, les barricades, les grandes rues parisiennes. Ça l'excite, il a l'impression d'être dans BFM. Je lui dis que je comprends pas pourquoi il regarde cette putain de chaîne, alors qu'il me dit tout le temps qu'il mente et qu'il y fout la haine. Il me dit qu'il la met juste en fond, ça lui fait une présence. Et de toute façon, il fait toujours autre chose en même temps, comme partager des trucs complotistes, bas de gamme, auquel je répondais ah ah, alors qu'en vrai, je les regarde pas. Je me suis auto-persuadé qu'au fond, il y croit pas, que c'est juste que sa vie est moins fade avec un peu de drama. Bref, le cortège va bientôt partir. Et moi je vais bientôt partir du cortège. Sauf que France nous présente sa copine bonne Matip. Mickey croit pas au Covid, donc il tente la bise. À peine le temps qu'elle esquive, on marche au son des batteries. Ambiance samba au Brésil, par des toughers qui ont pas de rythme. Y'a des employés, des profs, j'suis dans mes fêtes de famille. Ça crie des slogans nuls sur des ministres ou j'sais pas qui. J'suis dans la manif. J'suis dans la manif. Je profite de la marche pour me rapprocher de Mathilde, qui dit qu'elle connaît France parce qu'elle vient de Caen mais qu'elle a fui. Moitié blogueuse mode, moitié journaliste, donc pile le genre de meuf qui m'énerve et qui m'attire, qui arrive à se donner un style manifestante avec un petit twist catin. Si je devais la décrire, 2021. Elle me dit que si sa carrière va bien, elle se verrait bien chez Quotidien. Pour l'instant c'est pure people qui assure son quotidien. Je sais pas si c'est l'ambiance manif qui fait ça, mais Mathilde et moi on s'embat très vite dans un grand débat qui mélange gender, fluide, ouïghour et vegan. Donc en gros pas mal de sujets qu'en fait je connais pas, qu'elle récite sur le bout des doigts. Non seulement j'ai pas d'arguments, mais elle est plus intelligente que moi. Je me sens agressé, j'y mets de la mauvaise foi. Je dis 2-3 trucs un peu réhac, elle m'ignore et fait des snaps. T'façon j'ai une meuf, t'façon j'ai rien à foutre là. Je vois Mickey lui dire que je me barre, il me dit que je suis un bâtard, parce qu'on peut jamais se voir, me propose une bière, 13h, j'accepte de boire. 15 minutes plus tard, je commence à kiffer. Ce qui est cool avec Mickey, c'est qu'il sera toujours Mickey. J'ai l'impression d'avoir 18 ans qu'on s'est jamais quitté. On fait des blagues de merde du genre qu'il vaut mieux pas tweeter. On passe devant l'Olympia quand je pense à un truc bête. Je dis à Mickey, au fait, pourquoi on manifeste? Il me dit demande à France, je suis surtout là pour la pécho. Je vais vers France que je connais un peu, c'est la sœur à Fredo. Par politesse, je lui demande ce qu'elle devient. Elle me dit qu'elle va très bien. Et je capte direct qu'elle va pas très bien. Je l'ai pas croisée depuis 10 ans et elle en a pris 20. Elle me dit qu'elle reste à Caen car ses parents sont pas très loin. Qu'elle bougerait bien mais c'est plus pratique pour son fils. Son mari s'est barré avec une meuf d'un autre service. Que c'est tant mieux parce qu'il était ultra possessif. Et de toute façon elle travaille tout le temps, elle a pas le temps d'être triste. C'est fou qu'elle se confie aussi vite. Elle me dit qu'elle voit peu de nouvelles personnes, donc elle en profite. Elle me parle des journées qu'elle passe à nourrir, à faire des lits. Qu'elle est à la fois infirmière, femme de chambre et psy. Que finalement laver des vieux c'est pas si pénible, parce que ça lui fait plaisir de pouvoir faire plaisir. Qu'au début c'est bizarre d'être qu'avec des gens séniles. Qu'on s'habitue à ce que la mort puisse faire partie de sa vie. Elle dit qu'elle travaille plus la nuit parce que ça l'épuise. Car des problèmes de l'intérim c'est de prendre un crédit. Elle m'explique que jongler entre un gamin et un SMIC c'est tout un art, faut savoir rentrer en mode survie. Que ça prend du temps et de l'énergie d'être fauché, devoir gérer un budget au centime près, d'être comme prisonnier du stress, la menace des huissiers derrière la tête, les découverts, les dettes, la peur de la boîte aux lettres. Elle me dit que sa vie n'était déjà pas parfaite, mais qu'en plus maintenant elle doit s'inquiéter pour la retraite. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on manifeste contre les fils de pute de l'État. Je suis dans la manif. Wow. Hey, je crois que Mickey est bien foncé vu qu'il s'en prend une trottinette. Mathilde en fait une story, bravo France ton nouveau mec. Dans les cases bleues du Monopoly on manifeste. 16h, rumeur de sale gosse qu'on pas fait la sieste. Ça traîne des yep, ça court un peu dans tous les sens. Je sais pas si c'est la fumée ou l'atmosphère est devenue dense. Rien n'avance, les gens perdent patience. Les insultes remplacent les chances en rapport avec la retraite à France. Évidemment y'a plus de respect des gestes barrières. Juste des mecs qui font des grands gestes et qui jettent des barrières. Une atterrit dans un Franprix juste derrière, des mecs en cagoule, se rue sur la vitrine pour lui niquer sa mère. Mickey s'engouffre dans la brèche, ressort une minute plus tard à la Fort Boyard, les bras remplis de grandes canettes. J'ai juste le temps de lui dire y'a les flics, qui se fait plaquer par un civil. Mickey lui met une esquive magnifique. Le flic s'écrase comme une merde contre un poteau électrique, se prend les pieds dans sa matraque, ça part en tragicomique. Le flic finit en boule, Mickey lui tège une grande bière dans la bouche. On se réfugie dans la foule. Mathilde jubile parce qu'elle a tout filmé. D'ailleurs c'est déjà en train de retweeter. C'est vite fait, je me dis que c'est le moment de s'éclipser. Sauf qu'on a perdu France qui doit regretter d'avoir pris un jour de RTT. Une heure après tout a empiré, voiture retournée. La lacrymo commence à piquer, je sais toujours pas où France a filé. Je dois m'occuper de Mickey déchiré qui fait tout pour passer au JT. Quand je vois Mathilde dans l'arme en train de flipper, j'emmène vers un coin calme pour qu'elle puisse m'expliquer. Elle bafouille des trucs sur son image et sa carrière. Son tweet est devenu viral mais pas de la bonne manière. Récupéré par des merdes comme valeur actuelle. Donc le contraire de Mathilde et ses valeurs à elle. En fait, comme Mickey est un peu métissé, on utilise le tweet genre les méfaits des mecs de cité. Où il a jamais mis les pieds si je dois préciser. On dit que c'est ce que la journaliste a voulu dénoncer. C'est sur la fin de la vidéo où elle a pas eu de chance. Parce qu'on y voit deux petites blanches dont une qui dit merci France. C'est devenu un hashtag raciste. Merci France. Et en vrai je trouve ça un peu marrant quand je reçois un coup sur la hanche et un coup sur la jambe. Je suis face à deux agents dont celui de la vidéo d'avant. Mickey m'attrape par le bras et hurle full quand maintenant. Je pars en courant boitant, fais 5 mètres, m'écroule à plat ventre. Je me retourne en haletant, vois Mickey son fumigène face au flic de la vidéo d'avant qui sort son flashball, ça me fait un trou espace-temps. Je vois le visage du flic déformé par la haine. Je pense qu'il pense au même où Spider-Man le balaye comme une merde. Il doit se dire qu'il bosse pour la France, pas pour se faire humilier par elle. Je me dis que la canette dans la tête, c'était peut-être pas la peine. Je vois Mickey avec son fumigène, qui sent pousser des ailes, qui doit s'imaginer en boucle sur BFM. Ou juste il s'imagine rien vu qu'il a bu 15 Ken. J'entends un coup de feu qui part. Mickey titube au bon moment, le tir passe à un mètre. Son fumigène de merde s'éteint avant même qu'il jette. Un corps percute le sol près de moi, du sang sort de la tête. Je reconnais France, je me dis qu'elle aura pas sa retraite.
Mais je repense aussi à un autre journaliste de... Bon, qui a peut-être... dénoncé beaucoup de malversations financières. Je pense à Denis Robert, qui a eu énormément d'attaques contre lui.
Oui, bien sûr, les journalistes d'investigation comme ça déplacent toujours au pouvoir. D'ailleurs, l'une des choses qui devrait tous nous alarmer dans l'Empire Bolloré, c'est que c'est toujours le journaliste d'investigation qui s'en prend en premier. Le journaliste d'investigation a disparu sur Canal+, dès qu'il est arrivé, il a disparu ensuite sur Europe 1, il a disparu du JDD là, en l'espace de quelques semaines, les pages enquête ont disparu. Et il s'en prend aussi à tous les journalistes qui travaillent sur lui à l'extérieur. Donc ça montre à quel point le journaliste d'investigation est le plus utile. Si c'est celui qui déplaît le plus, ça prouve bien c'est un poil à gratter nécessaire. Et on a moins cette tradition en France que dans le journalisme anglo-saxon, où il y a une mythologie qui s'est créée notamment depuis le Watergate autour de ce journalisme-là. Et nous avons moins cette tradition-là parce qu'on a plus malheureusement un fonctionnement très endogame entre pouvoir et médias. Et les journalistes qui rompent avec ça prennent des risques. Après, Denis Robert, dans l'affaire Clearstream, il y avait une partie de l'affaire qui avait été utilisée notamment par Dominique de Villepin dans sa lutte contre Nicolas Sarkozy. Donc tout n'était pas juste, tout n'était pas bon, mais n'empêche que ça reste un vrai journaliste d'investigation et c'est pour ça qu'on l'a pris pour cible.
Mais alors ça, c'est mon ressenti et ma façon de voir les choses. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on a l'impression quand même que le pouvoir politique et les journalistes font partie de la même caste.
Alors, pour enseigner dans des écoles de journalisme, je peux vous dire que les jeunes journalistes, ils veulent surtout pas devenir ça. Ils rêvent d'être Florence Omna, ils rêvent d'être Edoui Plenel, ils rêvent pas...
D'avoir leurs entrées.
D'être Christophe Barbier ou François-Olivier Gisbert. Voilà, le livre que j'avais écrit, Le contact et la distance, partait d'une phrase d'Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui avait dit à cela, le journalisme, c'est le contact et la distance. Si on est trop loin, on ne voit pas bien. Si on est trop proche, on est dans la connivence. Beaucoup de journalistes politiques français ont choisi d'être dans la connivence, au nom du fait qu'ils doivent être informés. Et je crois que beaucoup d'entre eux perdent leur lucidité avec une conception du journalisme qui a longtemps été pyramidale, du journalisme politique, c'est-à-dire tout en bas, on est sur le terrain ou on est dans un travail en rédaction, et puis on s'élève jusqu'au rôle d'éditorialiste, puis d'éditorialiste politique en vue, on s'approche du sommet. Le sommet, c'est la proximité avec le pouvoir, c'est l'Élysée, c'est le château, comme on dit. Et une fois qu'on a touché le château, il faut surtout pas en être exclu. C'est les traces de notre culture d'ancien régime, de cette idée que le pouvoir est ce dont on doit à tout prix s'approcher. C'est une logique de courtisanerie. et qui a été celle de beaucoup de journalistes, je citais François-Olivier Gisbert, parce qu'on s'en est beaucoup pris à des femmes qui couchent, enfin qui ont fait des carrières, du coup, vraiment qui poussent très loin cette connivence en faisant des couples avec le pouvoir. Les couples femmes journalistes, hommes politiques sont très nombreux en France, beaucoup plus nombreux qu'ailleurs, et c'est le fruit de cette tradition de l'endogamie qui commence souvent très tôt. À Sciences Po, on forme ensemble les élites politiques et médiatiques. Mmh. Donc là, c'est dès la formation des élites que ça se joue. Et des journalistes comme François-Olivier Gisbert sont vraiment dans cette tradition-là. Lui, il l'avait théorisé, il disait « moi je baise avec le pouvoir ». Et il a eu des amitiés quasi fusionnelles avec Dominique de Villepin, que j'évoquais tout à l'heure, d'où le rôle du point dans Clearstream. Il a eu des amitiés avec Jacques Chirac, une photo connue de tous les deux en vacances, là, sur le pont d'un bateau. Bon, ce sont des amitiés ou des amours qui sont le symptôme d'un problème français de proximité entre les élites politiques et médiatiques. Ça, c'est tout à fait juste. Mais quand même, pour être plus rassurant, d'abord, ce journalisme n'a jamais été le seul à exister. Et on a aussi en France une tradition du journalisme d'investigation, du journalisme de reportage. Peut-être moins, il est moins prestigieux traditionnellement en France que dans les pays anglo-saxons. Le reportage dans les pays anglo-saxons depuis le 19e siècle, avec le grand reportage du dernier tiers du 19e siècle, c'est vraiment imposé comme la forme noble du journalisme. Nous, c'est encore, jusqu'à une période récente, c'était vraiment le journalisme politique, le journalisme d'éditorial, le journalisme de proximité avec le pouvoir, qui était le plus valorisé. Ça vient de toute une tradition du journalisme de commentaires qui commence dès l'Ancien Régime, journalisme littéraire, où on ne descend pas sur le terrain, on écrit dans son bureau plutôt des analyses, des commentaires. Mais ça change. Et je vois chez les jeunes journalistes qui ne rêvent pas du tout de ressembler à ces éditorialistes en vue qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être d'être invité à l'Élysée le plus souvent possible. Il y a une autre génération qui est plus, qui peut être militante sur des questions de genre, sur des questions d'antiracisme, mais qui souvent est simplement au service d'une vérité, d'un journalisme des faits, et qui veut faire du reportage, qui veut faire de l'enquête, qui veut faire de l'investigation. Et j'ai envie de croire en cette génération à venir qui cherche à changer les codes du journalisme et à transformer notre culture journalistique elle-même.
On a envie d'y croire aussi, parce qu'en fait, les journalistes, ils parlent, par exemple, de la vie des citoyens, mais ils n'en connaissent rien, en fait. Ils sont complètement hors sol par rapport au quotidien de la majorité des Français.
Alors, ça, c'est l'éditorialiste en vue. Il y a Christophe Barbier, qui est un peu l'emblème de ces journalistes-là. Il avait dit dans une interview au JDD en 2017... se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste.
Ah ben oui.
Donc la prise en compte de la réalité était l'ennemi du journaliste, alors que l'éditorial, c'est un mot qui vient du 19e, c'était la partie la plus noble du journal, tout en haut de la page, à une époque c'est très hiérarchisé, compte tenu des journaux, donc c'est très respecté, mais c'est au nom d'une connaissance du réel. Ça n'a jamais été dans la volonté de l'ignorer. Ça, c'est vraiment une dérive du journalisme français, présente chez Barbier comme chez beaucoup d'autres.
Je travaille au front d'une rédaction, je rentre du terrain, je passe à l'action. Encore une tête que je coupe, demain matin, il y aura du scoop. Comment ? L'info est déjà sortie sur un site gratuit. Mon sujet est retiré, au mieux retoqué, je vais devoir tout réangler. Ce genre d'infos pour les locaux, c'était à nous à l'époque où les petites pastilles oranges poussaient sur toutes les boîtes aux lettres. Fallait qu'un pesticide étrange file tout gratos sur Internet. Depuis, les choses ont bien changé. L'angoisse de la page blanche s'est dépassée. Maintenant, c'est celle de l'info passée qui fait que le papier, c'est pas le pied. Je travaille au fond d'une rédaction. Je rentre du terrain, je passe à l'action. Après une brève, la vidéo que je dois poster sur les réseaux. Et puis, faudra tout réécrire, réussir à faire lire tous ces jeunes qui ne lisent plus. C'est bien connu. Ah, pourquoi j'ai choisi presse écrite maintenant que tout va trop vite. c'était plus doux à l'époque où les petites pastilles oranges poussaient sur toutes les boîtes aux lettres. Fallait qu'un pesticide étrange file tout gratos sur internet. Depuis, les choses ont bien changé. L'angoisse, la page blanche s'est dépassée. Maintenant, c'est celle de l'info passée qui fait que le papier, c'est pas.